c'était pas dans celle d'avant, c'était encore dans celle d'avant. Hein, c'était à Fontescalière, voilà, et je vous raconterai tout à l'heure comment ça s'est passé, mais c'est là que je suis né. Alors quand on revient dans la maison mère, hein, à la maison mère, j'ai rencontré papa en fait. J'ai rencontré Jésus, et Jésus m'a fait connaître le Père. Hein, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'est ma maison mère, c'est là aussi que j'ai grandi. Pendant combien en fait, 82 jusqu'en 99, ça fait longtemps, hein, ça fait 17 ans, ouais, merci. 17 ans, voilà. Entre ici, Rodilla, Marguerite, les quatre fages, je vais en parler tout à l'heure. Voilà. Donc je voudrais d'abord commencer par vous saluer tous ceux que je n'ai pas vus, et vous saluer de la part de l'Assemblée chrétienne d'Alès en particulier. Et vous savez, je crois que dans chaque église, on a une bénédiction particulière. Et je voudrais vous bénir de la bénédiction que nous avons à Alès. Voilà. Soyez bénis de la bénédiction qu'il y a sur Alès, et qu'elle vienne s'ajouter à votre bénédiction, pour qu'à votre tour, vous soyez multipliés et que vous bénissiez encore autour de vous et que vraiment vous portiez du fruit pour sa gloire. Amen. Amen. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais faire un peu de pub, puisqu'on parle d'Alès. Petit moment de promo. J'ai demandé à Norbert, il m'a dit, il n'est pas là Norbert, mais j'ai l'autorisation de Norbert. Alors, donc déjà... Vous avez l'affiche, avec Loïc, on l'a mise, pour le 26-27 octobre. Donc, nous recevons Chuck Perry, qui est directeur des chambres de guérison, des Healing Rooms à Bethel, l'église de Bethel en Californie. Voilà, Chuck, ce n'est pas la première fois qu'il vient, c'est un ami maintenant. Et donc, il sera là le 26 et 27. Donc, si vous voulez, il faut s'inscrire, c'est sur inscription pour la journée. Voilà. Et le soir, il y aura une belle soirée d'évangélisation. Le thème, c'est « Témoins dans la cité ». Et l'après-midi, pour ceux qui viendront à la conférence, sachez que ça sera de la mise en pratique. On ira dans la rue pour être les témoins et aller chercher toutes les brebis perdues de Jésus. Amen. Voilà, 26-27. Donc vous allez sur le site de l'Assemblée chrétienne, ac-ac.fr, vous avez toutes les infos. Je voudrais aussi faire de la pub pour notre école, être l'école dans sa présence. Vous avez des flyers d'ailleurs là-bas pour ça. Donc qui a commencé déjà le week-end dernier, ça a été la première session, avec une session par mois tout au long de l'année. Si vous voulez avoir plus d'infos pour l'école dans sa présence, vous allez voir Corinne et Gérard, qui ont suivi le parcours pendant 2 ans. Voilà. Vous allez voir aussi Elisabeth et Jean-Pierre, je ne sais pas s'ils sont là, non, je ne les ai pas vus. Donc, ils sont en train de suivre le parcours de l'école, et vous aurez plus d'informations. Voilà. Et Chuck, il vient aussi dans le cadre de l'école. Et puis, une dernière pub, une fois par mois. Je pense qu'ici, vous priez pour les malades, mais si vous voulez passer un temps spécial dans notre espace guérison, c'est une fois par mois, le premier samedi du mois, de 9h à 13h. Donc toujours au 17 avenue d'Alsace. Voilà pour... Non, je n'ai pas fini la pub, mais ça, vous la ferez encore mieux que moi. Donc on va se retrouver encore du 8 au 22 novembre, hein, c'est bien ça, puisque à l'espace Séguier, donc, je vais faire une expo de peinture, et donc ce sera aussi l'occasion de se retrouver. Voilà. Voilà pour la pub. Après, vous avez mon livre qui est là-bas, en vente 12 euros. Alors, Fredou, tu as tout à fait eu raison de dire que j'étais un Ardéchois, et un Ardéchois de pure souche, puisque, c'est vrai, j'ai une cousine du côté de papa, et une cousine du côté de maman, qui ont fait des recherches dans nos origines. Et je vous assure, on n'est pas sortis, tous mes aïeux ne sont pas sortis de 3 cantons de l'Ardèche, des Cévennes ardéchoises. Donc je suis un pur souche de pure souche. Est-ce qu'il y a un Ardéchois parmi nous? Il y a un Ardéchois? Alors tiens, voilà le livre. Vous pouvez venir, tiens, tu le fais passer, Cathy? Je le dédicacerai à la fin. Il y en a qui regrettent, peut-être. Maintenant, c'est 12 euros. Voilà, donc, je vais commencer à être un peu plus sérieux. Donc, j'ai 60 ans. Je suis passé de vieux adulte à jeune vieux. Hein, vous savez, c'est quand on va... quand on est à l'école primaire, on est au CM2, on est fait partie des grands, et puis après on se retrouve au collège, on est les petits sixièmes, et on regarde les troisièmes, là un peu terrorisés. Et puis quand on est troisième, on passe au lycée, on est les petits secondes, etc. Puis on termine sa vie d'étudiant, et il faut rentrer dans la vie active, et on est un jeune et nouveau travailleur, ça s'appelle les saisons de la vie, comme ça. Voilà, donc je suis un jeune vieux, non pas parce que j'ai 60 ans, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on est vieux, mais parce que aussi, comme l'a dit Fredou, j'ai 4 petits-enfants maintenant, donc voilà, hein, ça commence à compter. Donc tout ça, il a dit que je suis prof de sport aussi. Alors, donc j'ai écrit mon autobiographie, non pas que ma vie ait été extraordinaire, au contraire. Je dirais ma vie a été assez ordinaire. Il n'y a pas eu de drame, j'ai pas fait les 400 coups, je ne suis pas allé faire des voyages dans le monde, je n'ai pas impacté le monde, je n'ai pas fait des découvertes. Enfin, tous ces gens, vous voyez, qui passent à la télé parfois et qui ont fait des choses extraordinaires et qui viennent vous raconter ce qui s'est passé dans leur vie. Ma vie n'a pas eu d'événements extraordinaires, mais je considère que ma vie est extraordinaire parce qu'elle s'est déroulée sous le regard de Dieu et elle se déroule sous le regard de Dieu. Et je voudrais déjà vous encourager à considérer votre vie et à dire ma vie a quelque chose de spécial parce que je marche avec Dieu. Hein ? Il nous est dit de Noé dans Genèse 6-9, Noé conduisait sa vie sous le regard de Dieu, ou Noé marchait sous le regard de Dieu. Hein ? Je ne vois pas de meilleur programme et c'est un programme qui va nous amener dans des choses vraiment fabuleuses. Voilà. Donc j'ai écrit mon autobiographie parce que je voulais... Vous savez, à 60 ans, on pense à ses petits-enfants. Et je voulais d'abord laisser quelque chose à mes petits-enfants, à mes filles aussi, puisqu'on a deux filles. Parce que même nos filles, elles ont vécu avec nous notre foi. Hein, puisqu'on s'est mariés, on était déjà chrétiens avec Cathy. Et finalement, elles n'ont pas forcément compris, ou elles n'ont pas su forcément, parce qu'on n'a pas toujours expliqué, pourquoi on prenait telle décision, pourquoi on faisait cela dans nos vies, pourquoi on se comportait comme ça. Hein. Et donc, j'ai voulu être assez explicite, et puis, voilà, laisser l'histoire de papy Xavier à mes petits-enfants, je pense que c'est quelque chose de très important. Ils sont jeunes encore, ils n'ont pas l'âge de le lire, mais le moment viendra de le lire, et j'espère que je pourrai leur expliquer des choses. Et puis, c'est aussi... quelque chose qui est fait pour tout le monde, pour chacun d'entre vous, pour mes collègues de boulot. Je me rappelle Daniel Molera, quand il s'est converti, il m'avait raconté... Oui, il est Daniel. Il est là-bas, Daniel. Voilà. Et je ne sais pas, tu dois te rappeler de ça, Jean-Louis. Il avait enregistré son témoignage sur des cassettes. Et à la sortie de son boulot, il avait distribué ces cassettes à toutes les personnes qui travaillaient à la SOR. Hein. Et ça m'avait marqué. Hein. Ça m'avait marqué. Et moi, j'ai fait pareil. Voilà, j'ai donné mon témoignage à plein de gens, à mes collègues de boulot, à des amis, à de la famille, des cousins, vous savez, des gens qu'on ne voit pas souvent. Ça a été aussi l'occasion de les voir avec mon expo de peinture. Et c'est quelque chose de très puissant de raconter sa vie avec Dieu. Voilà. Et n'hésitez pas à le faire, même si vous êtes... pas forcément très féru pour écrire, trouvez quelqu'un qui va vous aider à écrire, ça c'est facile, il y en a plein, je suis sûr, parmi vous, hein. Et écrivez, laissez quelque chose, et donnez et expliquez votre vie avec Dieu, parce que c'est une vie extraordinaire, hein. C'est une vie extraordinaire. Voilà, donc je suis ardéchois, de Lablachère, dans le sud Ardèche, donc je suis né dans une famille recomposée, puisque papa avait été veuf, il avait eu deux enfants de son premier mariage, et moi je suis le petit dernier, hein, je suis le cinquième, voilà. Donc j'ai été désiré par mes parents, et même plus que désiré. Maman m'a raconté cette histoire l'an dernier, donc à 95 ans, elle a 96 ans maman, papa est décédé il y a plus de 10 ans. Donc quand le médecin leur a annoncé qu'elle était enceinte, hein, il aura aussi, c'est incroyable, je ne savais pas que ça existait à cette époque-là, il aura donné une petite ampoule. Et il aura dit, maintenant, voilà, hein, faites ce que vous voulez, choisissez en votre âme et conscience. C'est une ampoule, un produit abortif. Voilà. Et maman m'a raconté ça l'an dernier. Elle croyait me l'avoir dit, mais elle ne me l'a pas dit. Elle ne me l'avait pas dit. Et donc, elle s'est agenouillée au pied du lit, et elle s'est, parce qu'elle est croyante, hein, et elle a remis ça à Dieu. Et elle a décidé... que oui, le petit Xavier, il vivrait. Voilà. Et moi, ça m'a bouleversé parce que quand je suis sorti, j'étais à l'hôpital, quand elle m'a raconté ça, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais l'impression d'être indestructible, totalement indestructible. Pourquoi ? Parce que j'étais voulu de Dieu, j'étais voulu de mes parents et voulu de Dieu. Et nous sommes indestructibles parce que nous appartenons à Dieu. Quand nous lui appartenons, nous sommes indestructibles. Voilà, donc après j'ai eu une enfance très très heureuse. Comme j'étais le petit dernier, j'étais un peu le chouchou aussi. J'ai profité de certains avantages que mes frères et sœurs n'ont pas eu, peut-être. Et dès ma petite enfance, j'ai cru en Dieu. Voilà, mes parents étaient catholiques, on allait à la messe. Ils étaient très pratiquants, je suis allé au catéchisme, etc. Pour moi, ça n'a jamais fait aucun doute que Dieu existait. Un jour, je lui ai demandé une preuve. Je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 10 ans, je pense, une dizaine d'années. C'était à la sortie de la messe, maman discutait avec quelqu'un, j'étais à côté d'elle. Et comme ça, dans l'herbe, je regarde, il y a une petite bête noire qui passe. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes, fais que la petite bête elle fasse demi-tour. Et alors là, j'ai été stupéfait parce que la petite bête, elle a fait demi-tour. Voilà. C'est incroyable, Et ça reste, ça. Voilà, ça reste, ça ancre. Après, j'ai fait ma communion solennelle, donc c'est à 12 ans, et le prêtre m'avait donné les quatre évangiles, voilà, le livre des quatre évangiles. J'ai lu ça à 12 ans et ça m'a vraiment impacté. Là, c'est ce qui m'a impacté, c'est ce qui m'a frappé, c'est de voir la vie de Jésus et les paroles de Jésus. Malheureusement, je n'avais pas encore compris l'essentiel, ça viendra plus tard. Mais quand même, voilà, ça, l'évangile m'a énormément impacté. Après, j'ai eu une enfance donc heureuse, comme je vous disais, à la campagne. Mes parents étaient agriculteurs. Voilà, j'étais un élève assez studieux à l'école. J'avais une bonne institutrice, qui deviendra plus tard ma belle-mère. Donc avec Cathy, on s'est connus à l'école primaire. Enfin, on s'est croisés à l'école primaire, vous savez. Parce que la fille, j'ai 3 ans de plus qu'elle, donc la fille de l'institutrice qui a 3 ans de moins que vous, ça ne vous intéresse pas beaucoup à l'école primaire. On ne joue pas tellement ensemble. Voilà. Donc, dès mon jeune âge, j'ai fait beaucoup de sport. J'aimais voilà, toutes sortes de choses. J'aime beaucoup le sport. C'était ma passion. Et papa a été pendant 25 ans président du club de foot. Et il était encore à plus de 70 ans et quelqu'un lui disait, tu veux pas être le président du club du troisième âge? Il disait, je suis le président des jeunes, qu'est-ce que vous voulez que je sois le président des vieux? Voilà. Mais c'est vrai que toute mon enfance a vraiment formé ma personnalité. Et puis après ça continuait, donc je suis allé au lycée agricole d'Aubenas. Et là ça a été un temps formidable, quoi. Parce que c'est l'adolescence, on est jeune. Déjà, on fait plein de choses. Et puis, on était dans un lycée pilote, notamment au niveau des activités de pleine nature. Donc, j'ai fait des choses que si je les faisais avec mes élèves aujourd'hui, j'irais tout de suite en prison. Parce qu'on pratiquait dans des conditions qui étaient quand même... voilà, on était des pionniers, quoi. Mais ça fut un temps formidable. Et puis, il y avait toujours cette foi. Et tant bien que mal, je continuais à aller à la messe parce que pour moi, ça avait un sens. Ça avait un sens, même si j'aurais été incapable de dire quel était le vrai sens, le sens profond d'aller à la messe, de faire un rite comme ça, parce que ça l'était quand même beaucoup. Voilà. Pour moi, l'évangile, c'était d'abord un combat social. Dans le catholicisme, on vous apprend beaucoup cela, d'impacter le monde par votre action, de changer les choses par votre action. Le catholicisme des œuvres, l'évangile des œuvres, voilà. Après, il y a eu aussi, bien sûr, la conscience politique qui s'éveille à cet âge-là. Et bon, il me semblait quand même que tout ce qui était tourné vers le social avait du sens aussi. À Bordeaux, pendant mes études, j'ai pu rencontrer René Dumont. Pour les plus anciens, ça veut dire quelque chose. C'est le premier écologiste qui s'est présenté aux élections présidentielles en 78, je crois. Voilà. Et ça, et si vous voulez, j'en étais arrivé à la conclusion, on peut changer le monde. L'évangile dans une main, l'utopie ou la mort, c'était le livre de René Dumont. Dans l'autre main, écrit en 74. Si vous avez jamais lu ce livre, vraiment, allez-y le lire. Parce qu'il était prophétique. Et quand il parle de tous les dérèglements climatiques, quand on parle toutes les questions d'environnement dont on parle aujourd'hui, René Dumont les dénonçait déjà en 1974. Hein. Et moi, j'ai appris au lycée agricole, tous les problèmes écologiques qu'on rencontre aujourd'hui, on en parlait déjà. Hein. Bon, voilà. Donc, vous voyez une conscience comme ça qui s'éveille avec cette volonté, avec l'évangile, c'est-à-dire l'amour. Aimer au nom de Dieu, et puis après faire qu'on rende le monde meilleur. Voilà comment je concevais l'évangile. Je me rappelle aussi avoir au lycée passé un moment avec Dieu, tout simplement. J'étais parti, j'avais pris ma mobylette, je roulais ma mobylette, Peugeot 103, orange. Voilà, ça c'était la liberté. Hein. On n'avait même pas besoin de mettre le casque à l'époque, c'était pas obligatoire. Et donc... J'étais parti dans les collines, dans la garrigue, là, au-dessus du lycée. Je m'étais allongé par terre. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'être seul, comme ça. Et je me rappelle avoir parlé toute l'après-midi avec Dieu, comme ça. Et il me semble qu'il me répondait. Donc, il y avait cette foi, quand même, cette soif en moi. Et puis après, bien sûr, les années étudiantes, c'est aussi la rencontre avec Cathy. Voilà. J'avais 20 ans, elle avait 17 ans. Je faisais le beau gosse à la rivière. J'avais les cheveux longs, comme maintenant, mais partout. Et voilà, et ça a commencé comme ça, le coup de foudre. Et en fait, on s'est vraiment rencontrés au bal du 15 août. Et le coup de foudre, il dure toujours. Et alors, après, il y a un événement qui est arrivé, et là, ça fait basculer ma vie. Parce que depuis tout jeune, je m'étais dit, avec les convictions que j'avais, je ne ferai jamais le service militaire. Parce que pour moi, le service militaire, c'était l'opposé de toutes mes convictions, de non-violence, etc. Et donc, il y avait plusieurs possibilités de ne pas faire le service militaire à l'époque. Soit on faisait la coopération, service civil, on partait 2 années au lieu d'une, servir dans une association, en général dans un pays étranger. Voilà, il y en a qui ont fait ça, peut-être parmi nous. Hein. Et puis la deuxième solution, c'est d'être objecteur de conscience. Mais là, c'était quand même un peu plus compliqué. C'était une loi dont il était interdit de faire la promotion, hein, la loi sur l'objecteur de conscience. Bon, le problème, c'est que les deux, ça n'a pas marché pour moi. Et donc un jour, 1er octobre 1981, je me suis retrouvé avec mon sac à passer sous le portique, hein, 4e régiment du génie, la Valbonne. Hein, je m'en rappelle encore. Voilà. Et en passant ce portique, il y a quelque chose en moi qui s'est effondré. Parce que j'ai réalisé que j'avais des convictions et que j'étais même prêt à dire « Bah oui, Jésus a donné sa vie, il est allé jusqu'au bout, il est mort pour ses convictions et il nous invite à faire de même. » Voyez. Et là, j'ai passé et je me suis dit « Xavier, mais elles sont où tes convictions ?» Il n'y a pas de convictions. Si tu avais des convictions, tu n'aurais pas passé le portique. Tu ne serais pas présenté. Tu aurais déserté. Et là, mon monde s'est effondré. Et donc, c'est ce que j'ai commencé par dire au capitaine. Hein, j'ai dit, je ne peux pas porter les armes. Ouh là là, alors là, c'est impressionnant. Quand vous dites ça, sentez la procédure qui se met en route. Hein, on commence par vous sortir de la file, hein, parce qu'on faisait la queue pour avoir les paquetages et tout. Après, on vous amène dans le bureau du capitaine, etc. Et... Alors je lui ai expliqué, il m'a dit, il n'y a pas de souci, vous allez commencer. Enfin, après, je connaissais la suite, on commençait par vous mettre 15 jours en isolement, en tôle, quoi, hein, pour réfléchir, et puis après, etc., etc. Voilà. Et là, quand j'ai dit ça à mes parents se sont complètement effondrés, ils ont pleuré au téléphone, ils m'ont supplié et tout. Et j'ai réfléchi une journée, une petite journée seulement, et puis j'ai dit, je vais le faire. Et quand j'ai dit, je vais le faire, c'est comme s'il y avait un poids qui partait. Il y a un poids qui est parti de mon cœur. Et je suis devenu le troufion le plus zélé qu'il y avait dans la compagnie. Quelque chose qui... Voilà, je m'étais mis un point, je portais plutôt un point que je ne devais pas porter. Et j'ai compris plus tard pourquoi. Hein. Voilà. Et donc, c'est pendant cette époque-là que Cathy est devenue chrétienne, elle s'est convertie. Tu veux expliquer comment ? Encouragez-la.
Bon, je vais dire en quelques mots. Donc, vous l'avez compris, j'habitais au sud de l'Ardèche, dans le même village que Xavier. Alors, contrairement à Xavier, mes parents n'étaient pas très religieux. Enfin, j'étais de catholique quand même, mais mon père était très réfractaire à tout ce qui est religion. Et ma mère était pratiquante, mais voilà, plus ou enfin, disons, d'un petit peu loin. Bon, ceci dit, j'avais quand même suivi le catéchisme, voilà, toute l'instruction, la communion, etc. Mais ma vision de... Alors, c'est vrai que c'est une région très catholique, le sud de l'Ardèche, et je n'avais jamais rencontré de protestants de ma vie. Et j'avais une aspiration, une soif d'absolu, mais en même temps, tout ce qui était religion, ça me faisait un petit peu peur. J'avais plutôt une espèce de... Voilà, le Dieu qu'on me présentait à l'église catholique me faisait peur, et j'étais assez effrayée par tout ce qui est rite, superstition. Voilà. Et ensuite, quand Xavier est rentré à l'armée, moi, je pense que c'est la même année, je suis venue faire mes études à Nîmes. Et voilà, c'est à Nîmes que j'ai rencontré des jeunes chrétiens au restaurant universitaire qui m'ont invité pour un film, La Croix et le Poignard. Je pense que les plus anciens connaissent ce film qui est très, très célèbre. Voilà. Et j'ai été extrêmement touchée. Et très rapidement, j'ai été touchée de voir ces jeunes qui avaient une relation personnelle avec Dieu. Ça n'avait rien à voir avec la superstition. On sentait qu'il y avait l'amour qui se dégageait d'eux, et c'est ça qui m'a vraiment impressionnée. Et très rapidement, j'ai cherché une église pour me faire baptiser, vraiment dans la foulée, quoi. Et là, je ne sais pas plus exactement comment, j'ai atterri chez Gérard et Corinne, un groupe de maisons, et voilà, c'était vraiment des moments forts, et puis c'est un peu émouvant là, de se retrouver là, j'ai cheminé, on priait pour mon fiancé de l'époque, voilà, pour mon fiancé, futur mari. Non, mais on n'était pas mariés encore, voilà ce que je voulais dire, on n'était pas mariés. On priait pour lui, et puis après, je vais le laisser raconter la suite.
Merci. Donc la suite, c'est qu'elle m'a fait rencontrer ces étudiants du GBU, du groupe biblique universitaire, lors d'un week-end qu'ils avaient fait. Et je les ai trouvés bien sympathiques, mais un peu naïfs. Voilà, ça a été ma première impression, quoi. Voilà, ils étaient à côté de la réalité, quoi. Hein. Et bon, les choses ont cheminé. J'étais à l'armée, donc, et Cathy m'a invité finalement le 28 février 1982 à l'église, quoi. Et c'était à Fontescalière, là-haut. C'était à une étude biblique. C'était sur un Pierre 3, c'est Jean E qui faisait l'étude. Et je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais à la fin, il a fait un appel pour ceux qui voulaient donner leur vie à Dieu. Et je me suis retrouvé en train de me lever. Voilà. Parce que je n'avais pas envie, mais je me suis levé, je me suis avancé. Je crois qu'il y avait, Jean-Louis qui était devant moi. Tu t'en rappelles, hein ? Voilà. Et Gérard est venu me parler. Et il m'a lu Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hein ? Et il m'a posé cette question. Il m'a dit, Xavier, c'est quoi pour toi la grâce ? Alors il me connaissait parce que ça faisait un moment qu'il priait pour moi là-bas. Hein ? Xavier, c'est quoi pour toi la grâce ? J'avais jamais réfléchi à cette question. Et le mot qui est venu dans mon esprit, c'est gratuit. Et je lui dis, c'est gratuit. Et en le disant, j'ai réalisé, tout s'est éclairé en le disant, quoi. Voilà, c'est gratuit, le salut est gratuit. Nous n'avons qu'une chose à faire pour commencer à marcher avec Dieu, c'est d'accepter ce don gratuit de Jésus. Et tout s'est éclairé. Et si vous voulez, le catholicisme m'avait donné une instruction religieuse, et c'est comme si, d'un seul coup, vous voyez, avant, il y avait les télés, là, on pouvait les faire marcher sans brancher l'antenne, hein, quand on était... quand on n'avait pas d'antenne ou autre, on mettait une fourchette. Vous avez connu ça, hein ? Voilà, et puis ça brouillait, et puis au meilleur passage. Et puis, voilà, c'est comme si on avait branché l'antenne d'un seul coup. Toute l'image est devenue claire, et non seulement elle était claire, mais en plus elle était en couleur. La télé était devenue en couleur, en un instant. Et donc, ça a été un moment... Alors, sur le coup, il s'est passé quelque chose, mais on ne le réalise pas comme je suis en train de vous l'expliquer maintenant. Hein. Je m'attendais à voir Jésus devant moi à tout instant. Je croyais qu'il allait venir là. Voilà, tellement, je ne sais pas. Et puis après, donc, j'étais à l'armée et mon boulot, c'était, j'étais au service technique, hein, j'étais soutier. Le soutier, c'est celui qui fait le plein des véhicules. Voilà, j'étais dans ma petite cabane, donc une semaine sur deux, j'étais tout seul. Et là, j'ai lu les évangiles, j'ai relu, et là, je vous garantis, les larmes qui coulaient, parce que je comprenais tout. Je comprenais toute la vie de Jésus, je comprenais tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait dit, tout s'éclairait. En plus, j'ai eu la chance, il y avait un chauffeur de camion qui était chrétien aussi, ensemble on a partagé des moments comme ça. J'ai lu et relu les bases de la foi chrétienne que Jean avait déjà écrites. Hein. Et donc, c'est comme s'il y a eu un socle qui est venu se former là, pour ma foi à ce moment-là. Puis après, finalement, donc, puisque Cathy cherchait une église pour se faire baptiser, on s'est fait baptiser peu de temps après, en fait, à l'Assemblée chrétienne. Hein. Voilà, ça, c'était en 82. Donc, j'avais fini mon service militaire, Cathy avait fini ses études, et ce qu'on a voulu, puisqu'on était ardéchois, c'est trouver du travail près de l'église. Parce qu'en Ardèche, il n'y avait pas d'église. Voilà, à Alès, il n'y avait pas encore l'Assemblée chrétienne d'Alès, et il n'y avait pas d'église en Ardèche. Je n'avais jamais rencontré un protestant avant ce moment-là. Jamais. Je n'étais jamais rentré dans un temple. Dans le sud d'Ardèche, il y a un temple au Vence, c'est-à-dire limitrophe avec le Gard, à Aubenas, la grande ville, et à Vallon-Pont-d'Arc. Voilà. Et alors, je savais qui étaient les protestants, mais je n'en avais jamais rencontré. Hein. Et donc, on a voulu commencer notre foyer et notre famille en ayant une église à côté. Donc, on a cherché du travail dans le Gard, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai trouvé du travail à la maison familiale de Vézenobre en tant qu'enseignant, et j'y suis toujours. Hein, voilà. Cathy a travaillé dans l'enseignement, puis après, maintenant, elle travaille à la CAF. Et donc, finalement, en ayant un travail, tout de suite, on s'est mariés le 23 décembre 1982. C'était un jeudi. On a fait... Toute la famille est descendue de l'Ardèche en cortège. On est remonté en Ardèche. On s'est marié un jeudi parce que le samedi, c'était le 25 et le 1er. Mais voilà, on voulait se marier. Et notre vie de couple a commencé comme ça, avec dès le départ beaucoup d'engagement dans l'Église. Pour nous, ça nous semblait naturel. Rapidement, on a servi. Hein, d'abord à Nîmes, donc c'était à Fontescalière. Après, au Mas des Rosiers. Hein, pour ceux qui ont connu l'époque là-bas, voilà le bâtiment qu'on avait construit. Et après, à un moment donné, Dieu a montré aux responsables de l'Église que plutôt que de faire une méga church, hein, ce qui était devant nous, c'était plutôt de créer des églises, des sémées. Donc, on a créé l'église sur Alès. Alors, je ne sais pas si c'est chronologique. D'abord, je crois que c'est les quatre phages. Oui, c'est les quatre phages. Une annexe en ville là-bas, près de la gare. Bon, ça, c'était un petit coup d'essai. Et puis après, donc, je pensais à Alès, puis après Alès et Rodillan à peu près en même temps, et Rodillan qui est devenu aujourd'hui Marguerite. Voilà. Et donc avec Norbert et Chantal, et Daniel et Janine, donc, nous avons fait partie des personnes qui ont installé l'église de Rodillan, puis de Marguerite. Voilà, une petite église, et c'était vraiment des temps bénis, où avec Cathy, nous avons appris vraiment à servir Dieu ensemble, dans l'engagement vraiment ensemble. Et puis après, nous sommes... Cathy ayant trouvé un travail, enfin, travaillant à la CAF sur Alès, en 99, nous avons décidé de déménager, donc on est parti de Marguerite, et pour s'installer sur Alès. Voilà. Évidemment, tout ce temps passé dans l'église, c'est beaucoup d'amitié forgée, beaucoup, beaucoup d'amitié forgée. J'aime dire que l'Église, c'est d'abord une histoire d'amitié, une histoire humaine et une histoire d'amitié, pour servir Dieu, bien sûr. Hein, mais c'est ça, l'Église. Et donc, il faut que je cite, parce que je leur suis reconnaissant, Jean-Louis Solange, bien sûr, hein, Daniel et Janine, Norbert et Chantal, Antoine, hein, Gérard et Corinne, après aussi Hélène et Loïc, voilà. Je les ai cités parce qu'ils sont encore là, parmi nous, hein, parmi vous, ils sont. Hein. Il y en a d'autres. On n'est pas morts. On est en pleine forme. On est des jeunes vieux. Hein. Mais je veux vraiment leur exprimer ma reconnaissance. on s'est régalé. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Hein. Il y a eu des peines aussi, et on a essayé de les passer ensemble. Et c'est ça l'Église. Hein. Voilà. Aujourd'hui, donc, comme disait Fredou, mon activité dans l'Église. Donc à l'Est, on a un collège d'anciens. Je fais partie des 4 anciens. Donc mon profit, c'est plutôt tout ce qui est administration, organisation, finance, l'enseignement aussi. Et j'aime beaucoup l'évangélisation. Voilà. Et je me régale de travailler avec Gérard. Il nous booste toujours dans ce sens-là. J'ai combien de temps encore, Fredou ? Dis-moi. 5-6 minutes ? Ok, bon, ça va aller. Hein. Les éléments essentiels de ma vie avec Dieu, de notre vie avec Cathy, hein, parce qu'il faut mettre les deux ensemble, même si c'est moi qui parle. Quoi. Tout cela, on l'a vécu vraiment ensemble, vraiment en couple. Hein, c'est... Voilà. C'est vivre sa foi à deux. Je pense que c'est quelque chose de très important dans un couple, de vraiment vivre sa foi à deux. L'Église, construire l'Église. Alors, si vous me demandez aujourd'hui, c'est quoi la structure type d'une Église, je vous répondrai, j'en sais rien. Sincèrement, hein, parce que la Bible nous dit peu de choses là-dessus. Par contre, je sais une chose, c'est que l'Église doit être cet outre qui est souple et qui doit recevoir la vie. Et à Alès, nous avons pour objectif d'abord de développer la vie et de dire ensuite, l'Église s'adaptera à ce que Dieu nous montre de vivre et à ce que nous vivons. Voilà, c'est une outre souple. Laisser l'outre sans cesse souple pour contenir la vie de l'Esprit. Hein. Ma vie, c'est aussi des rêves qui se sont réalisés. Alors, il y en a des très matériels, comme manger une pêche le soir dans mon jardin. Sous mon péché. C'est un moment fabuleux. Je ne sais pas si vous avez eu le privilège de vivre cette expérience. Au mois de juillet, sortir pieds nus dans le jardin, aller à son péché qu'on connaît, dans la nuit noire, là, et à tâtons, choisir une pêche mûre et la déguster sous les étoiles en remerciant le Seigneur. Hein? Donc, voilà, avoir un grand jardin. Hein? Merci Seigneur pour mon grand jardin et mes péchés et tout le reste. Être prof de sport aussi, parce que quand j'étais au collège, j'étais quelqu'un de très assidu, mais pas très performant. Et mon prof de sport de l'époque, il avait eu raison, hein, il avait dit à ma mère, non, prof de sport, c'est même pas la peine qu'il y pense. Voyez. Et puis Dieu a eu d'autres chemins, d'autres voies. Hein, et un jour, j'ai pu retourner à la fac à 40 ans et passer la licence qui a validé mon diplôme de prof de sport. Et ça, c'est un rêve vraiment qui s'est réalisé. J'ai une autre passion... toujours sportive, c'est la montagne. Voilà. J'aime la montagne, j'aime aller dans les montagnes, poser mes regards sur les montagnes à grimper. Hein, et j'ai une consolation, je sais qu'au ciel, il y aura des montagnes. Je l'ai cherché dans la Bible, je l'ai trouvé. Hein, et j'aurai toute l'éternité pour monter toutes les montagnes que je n'ai pas encore grimpées. Hein. J'ai grimpé le Mont Blanc une fois, et donc c'est une histoire. Voilà, et on s'est retrouvé avec mon collègue et le guide qu'on avait pris. Et finalement, on a dû grimper un jour avant ce qui était prévu, parce que le lendemain, il y avait du mauvais temps qui était annoncé. Donc, il nous a fait passer par une voie plus difficile. Et on s'est retrouvé à la cime du Mont Blanc, tout seul. Voilà, on était trois. Et ça a été un moment fabuleux. C'est un moment fabuleux parce que, bon, physiquement, quand même, il faut se donner. Et puis, d'être là-haut, hein, plus près du ciel. Et j'ai remercié Dieu tout fort. Et mon collègue, qui n'est pas chrétien, il a rajouté, et merci, j'ai dit merci Seigneur pour les montagnes, je ne me rappelle plus, merci Seigneur pour ce moment. Et mon collègue qui n'est pas chrétien, il a remercié Dieu en disant, et merci pour les amis avec qui on peut grimper les montagnes. Voilà. Hein, quand vous vous attachez à la corde avec un camarade, hein, il y a quelque chose qui se crée, voilà, un lien qui se crée, hein, parce qu'on a nos vies qui sont attachées ensemble, et après on monte vers le ciel comme ça. Quand on est allé en Californie, à Redding, à l'église de Bethel, on a visité la Californie et pas loin, là, il y a le mont Shasta, 4200 mètres. Et celui-là, j'avais prévu de le grimper. Il n'est pas difficile, on peut y aller tout seul, il n'y a pas de crevasse. Et quand j'ai monté le premier jour jusqu'à l'endroit de bivouac, à 3000 mètres, et après, il y avait une grande pente de neige, sauf que j'étais malade, je n'avais pas pu manger, tout ça. Et quand j'ai eu monté la grande pente de neige, je me suis retrouvé à 3600 mètres d'altitude, là, et je me suis affalé par terre. Parce qu'après, il restait encore 700 mètres à grimper. Et j'en pouvais plus. Et j'avais qu'une envie, c'était de redescendre. Je me suis allongé 10 minutes. Je me lève vers la descente et là, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Va avec la force que tu as ». Vous rappelez, ça, c'est Gédéon. C'est Dieu qui dit ça à Gédéon. Alors, j'ai dit « Bon ». Je me suis tourné de l'autre côté. J'étais épuisé. Je n'avais pas mangé depuis je ne sais pas combien de temps. Et un pas après l'autre, comme ça, je suis arrivé en haut. Hein, et ça a été aussi un moment fabuleux. Quoi. Voilà. Donc, j'ai vécu des choses vraiment fortes en montagne. Voilà. Et puis après, bien sûr, peindre. Ça, c'était un rêve que j'avais. Pour ceux qui connaissent Jean-Hé, il était peintre, parce qu'il ne peint plus maintenant. Et donc, j'ai toujours admiré sa peinture. D'ailleurs, peut-être que vous dites, bon, ça ressemble à Jean, ça, quand même, pas mal. Hein, voilà. Et un jour, je m'y suis mis. Et en fait, le déclic, il s'est passé dans la rue. Parce qu'à Alès, on descend dans la rue régulièrement et on va témoigner notre amour de toutes sortes de façons. Hein, et notamment, Jean avait inauguré ça en faisant ce qu'on appelle des peintures prophétiques. C'est-à-dire, les personnes viennent devant vous, vous leur expliquez le principe. Et vous leur dites, eh ben, écoute, je vais peindre pour toi quelque chose. Et en même temps, je vais demander à Dieu qui me parle. Et je te dirai quel est le message de Dieu pour toi. Et je vais essayer de le faire passer par la toile. Et je te le marquerai derrière. On a fait ça au Jardin de la Fontaine. Hein, quand on est venu avec l'école une fois, un samedi ici. Voilà. Et la première fois que je m'y suis mis, je vous promets, si je vous sors la photo, c'était assez abominable ce que j'ai fait. Simplement, il y a une personne qui était venue là, pour nous aider à progresser là-dedans, qui est venue vers moi et qui m'a dit « Xavier, est-ce que tu veux donner ta peinture ?» Bon, j'ai dit « Oui, si quelqu'un veut bien la prendre. » Oui, oui. Et donc, sauf que quand je peignais, je ne sais pas pourquoi, j'avais cette pensée, si vous voulez, prophétique, « Naissance de la vie ». Et la personne, elle a pris la peinture, elle est allée la porter à une jeune fille qui avait une quinzaine d'années. Et elle venait de parler avec cette jeune fille, et cette jeune fille venait de donner sa vie à Dieu. Et là, ça fait un déclic. Je me suis dit, Xavier, ce qui compte, applique-toi hein, dans ta peinture. Mais ce n'est pas la qualité de ta peinture qui compte en premier. C'est le message qu'elle véhicule. Et ce que Dieu te dit pour cette personne. Voilà. Et du coup, je me suis mis à peindre. J'ai peint des centaines et des centaines de toiles dans la rue que j'ai données comme ça, gratuitement. Et donc après... et du coup, ma peinture a énormément évolué, énormément. Et après, donc, j'ai fini cet été par faire une expo. Donc voilà, le tableau, là, si je voulais deux mots pour l'expliquer. Hein, donc, il s'appelle Bereshit. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, c'est au commencement. Donc, c'est le premier mot de la Bible. Et en fait, quand je peins toujours la même chose. Pour moi, je peins un moment où Dieu crée. Voilà, un moment où la vie jaillit. Hein, où il y a quelque chose qui se fait, et à partir de rien, Dieu crée, quand on y pense. Quoi. Hein. Alors moi, j'ai des pots de couleurs, là, et à partir de là, j'essaye hein, de mettre en couleur cela. Voilà. Pour moi, un tableau, c'est de la couleur, des couleurs en harmonie, de la lumière, du mouvement. Voilà. Et donc, toutes mes peintures sont centrées sur ça. Voilà. Et puis, voilà, donc, il y a beaucoup de rêves qui se sont réalisés dans ma vie. En marchant avec Dieu. Et bien sûr, aujourd'hui, une des choses qui nous satisfait le plus, c'est de voir nos quatre petits-enfants. Alors ça aussi, hein, vous savez, quand on était en réunion avec les collègues, tout le monde ouvre son portable aujourd'hui, on vient en réunion avec son ordinateur portable, et avant d'avoir des petits-enfants, je regardais les fonds d'écran de mes collègues, qui étaient grands-parents, et ils avaient tous leurs petits-enfants sur le fond d'écran. Et franchement, hein, je trouvais ça un peu cucu. Voilà, voilà, je me disais, oh là là, mais c'est pas possible d'être comme ça. Évidemment, dès que j'ai eu ma petite fille, paf, tous les fonds d'écran, téléphone, tablette, portable, enfin tout, hein, c'est les petits-enfants. Ça modifie le centre de gravité, il y a quelque chose qui se passe. Hein, voilà. Donc, le titre de mon autobiographie, c'est « Le meilleur est devant nous ». Alors certains pourraient penser, certainement pas, toi mon vieux, tu as fait le meilleur. Et pourtant, c'est pas vrai. Non, j'ai pas fait le meilleur. Le meilleur est devant moi. Hein. Quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez vécu dans votre vie, le meilleur est devant vous. Hein. Je voulais qu'on le marque sur ma pierre tombale. Puis après, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait expliquer avant. Avant d'en faire une épitaphe. Le ciel nous attend. Le ciel nous attend. Cette parole de Jésus, elle est fantastique. Je vais vous préparer une place auprès du Père. Rendez compte, le ciel nous attend et Jésus nous prépare, me prépare une place. J'aimerais lire, pour terminer, 2 Timothée 2, versets 1 à 4. Et voilà ce que dit Paul à Timothée. « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, ce qu'il approuve. Et si vous aspirez à mener une vie paisible, c'est une bonne aspiration et c'est un témoignage. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Voilà. Et ce témoignage-là, ne le gardez pas. Donnez-le. Donnez-le ce témoignage. Dans Apocalypse 19, il y a ce verset qui dit « Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. » Je le redis. « Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. » Quand je témoigne de ce que Jésus fait dans ma vie, c'est une prophétie donnée au monde. C'est Dieu qui parle au monde. La Bible a été écrite il y a 2000 ans. Raconte des histoires très anciennes, de 2000 ans à je ne sais pas combien, de milliers d'années. C'est des histoires fabuleuses. Mais ce que Dieu fait aujourd'hui dans nos vies, c'est l'actualité de Dieu dans ce monde. Et ça, il ne faut pas le taire. Voilà. Et je voudrais vraiment inviter tous les chrétiens à ne pas taire votre témoignage, à le donner, peut-être à l'écrire. Je suis sûr que ça fait écho dans le cœur de certains, le fait d'écrire son témoignage. Vous n'êtes pas obligé de faire un livre, peut-être que c'est 10 pages, 20 pages. Mais voilà, donnez-le et donnez-le après, et vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je vous garantis que j'ai plein de retours suite à mon livre. Ça, c'est la première chose que je voulais vous faire, vous encourager vraiment à témoigner de votre vie, dans les choses simples. Et puis, s'il y en a qui ne connaissent pas encore ce Dieu qui a été là, présent tout au long de ma vie et qui s'est révélé, je voudrais vraiment vous aussi vous encourager à venir à lui, ceux qui ne le connaissent pas encore. Il est le roi des rois. Tu peux venir tel que tu es. Tel que tu es, tu viens. Il prendra ton péché, prendra ta vie et il te donnera la vie éternelle et son salut. Parce que le prix a été payé. Le salut, il est gratuit. Pas tout à fait. Le salut, il est gratuit parce que Jésus a payé le prix. Et il est gratuit pour nous. Il a eu un prix, c'est le sang de Jésus. Donc, voilà. Viens, soumets-lui ta vie. Totalement, de A à Z. Amen. Vous l'avez compris ? Amen. Seigneur, merci parce que tu es bon. Tu es bon et tu es bon. Tu es bon du début à la fin, Seigneur. Tu es bon pour nous maintenant, Seigneur. Tu es bon pour ce monde. Et je veux vraiment te rendre gloire pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes frères et sœurs qui sont présents maintenant. Et je te prie, Seigneur, de leur donner maintenant les mots, le courage, les moyens pour que toute cette bonté qui caractérise toi dans leur vie, ils puissent la répandre dans ce monde, Jésus, pour ta gloire. Amen.
Merci beaucoup, Xavier. Si vous avez envie de découvrir Jésus, d'en apprendre plus, il y a un parcours qui a démarré, et je voudrais laisser la parole à Gérard pour nous présenter cela.